Bonsoir, merci d'être là ce soir. Donc c'est la troisième séance avec Inventaire Invention que Patrick Cahuzac a donc conçue pour nous. Donc après Louise Lambrix et Suzanne Doppelt, nous recevons Rémi Cecchetto et Franck Pruja, donc son éditeur qui dirige les éditions de l'Attente. Donc Rémi Cecchetto va d'abord nous lire un extrait de « Là où l'âme se déchire un peu mais pas toute ». Et puis ensuite, il y aura une discussion entre lui et Franck, menée par Patrick Cahuzac. Merci à vous et bonne soirée.
Donc oui, effectivement, un extrait de « Là où l'âme se déchire un peu, mais pas toute ». Je vous lis, c'est une pièce de théâtre, il y a trois personnages, l'homme qui est arrivé ici, la femme qui est arrivée ici, et l'homme d'ici. L'ouverture de la pièce est un dialogue entre les deux hommes, la fin de la pièce, c'est la femme qui vient d'arriver ici, qui parle avec son mari. C'est une histoire de sans-papiers, qui a été écrite l'année dernière. Là. Je suis là, mon amour, là pour embrasser, là où l'âme se déchire un peu, mais pas toute. Ce n'est rien, rien, mon amour. L'abéance de ton âme n'est pas si large que jamais les bords ne pourraient se rejoindre, n'est pas si sombre que tu ne pourrais plus rien y discerner et de toi et du monde. Pas si infernal que sa fréquentation brûlerait la moindre de tes respirations, de tes aspirations, pas si gangréneuse qu'évidence est faite qu'elle gagnera tout de ton corps jusqu'au trépas. Pas de trépas pour toi, mon amour, pas. Pas même un seul trépas d'un seul de tes pas, pas. La mort est loin. La mort ne te mord. Elle habite le pays loin d'ici, celui où nous n'irons plus. La mort ne parle pas notre nouvelle langue. Elle parle la langue du pays laissé loin d'ici. N'a plus aucune emprise sur nous, mon amour, plus aucune. Loin, la mort. La mort, mordue d'un venin, arrachée la mort, envoyée au fumier, tarie. La mort desséchée, la mort refroidie. Excite la mort, faim. Ne pleure, mon amour. Nous connaîtrons à nouveau l'air froid jusqu'à l'onglet, nous retrouverons les heures simples jusqu'à l'ennui, nous retournerons au jardin et verrons à nouveau la chaise qui vieillit plus vite que nous, oui, oui, plus vite que nous. Nous réintégrerons des journées plus difficiles à résoudre que des équations, serons à nouveau en des matins mutiques où les mots monteront doucement, viendront lentement à la vitesse de la rosée qui coule sur la feuille. Ne pleure, mon amour. Le chien du désastre n'est pas parmi nous. Tu pourras bientôt reposer ta tête nue sur l'herbe des collines. Voilà, nous y sommes. Le moment est venu. Le moment est là parmi nous, là avec nous. Le moment apporte le lieu en son giron. Repose maintenant ta tête nue sur l'herbe de cette colline. Bonjour, mon amour, bonjour. Dans l'herbe, dans le vert. Bonjour sous le bleu, bonjour toi. Mon horizontal à l'âme verticale, bonjour. Apprends que la ville n'est plus blottie ni endormie sous les guirlandes, qu'elle n'est plus une momie pomponnée, qu'elle n'a plus son immobilité de bronze, ses combrures de marbre, son ouïe évaporée, son cœur, son ventre, le cœur de son ventre, le ventre de son cœur givré, qu'enfin elle n'a plus rien oublié de ses aspirations ni de ses désirs, et qu'enfin elle rêve maintenant de barricades qui défont, de barrières qui ouvrent, qu'elle utilise maintenant tout l'alphabet, tous les alphabets. Elle sait articuler la ville, tous les mots à tous les mots. Peu à peu, ses traits se tirent, son masque est moins paisible, moins sirop son âme, et la ville aspire à du rouge claquant à toutes ses fenêtres. Et loin les grilles. Les grises grilles rouges de l'incandescence qui les habite sont loin, loin l'eau de nausée que tu devais ingurgiter dans l'effondrement des forces. Et loin l'immobilité, le silence qui condamne, loin les regards qui nous regardent et condamnent, loin le froid debout en armure et en armes. Et maintenant repose-toi mon amour, repose-toi dans l'herbe, dans le vert et le bleu qui t'ont donné rendez-vous et t'appartiennent et sont de toi et sont à toi. Attends, mon amour, attends. Entends. Pas loin, tout près dans les prés, tout contre. De l'eau sort du sombre et de l'informe et de l'informulé. S'insinue, sinue, parcourt le dos de la colline. S'écoule, ne s'éboule, coule entre les herbes. De l'eau coule dans l'eau qui coule, bulle dans l'eau qui bulle. C'est allongé, c'est lenteur. Cela va sans heurts. Cela va dans son va, glisse dans son glisse, se lisse dans son lisse, fait un bruit de rien du tout, fait le fruit d'une pensée. Et le soleil y est tout du long. Plusieurs soleils pareils, des dizaines pareils, c'est magie. Presque d'un autre monde, un autre monde pareil, mon amour. Voilà.
Bonsoir tout le monde. Donc en effet, c'est le troisième épisode d'une série de rencontres que j'ai proposé donc à la BPI dans le cadre de sa commémoration du 30e anniversaire du centre Georges Pompidou. Cette proposition initiale visait à vous présentez un couple, on va dire, un couple un peu singulier, auteur-éditeur, qui avait la particularité de se développer en marge de cette édition industrielle qui occupe la totalité visible, en tout cas, du terrain de l'édition contemporaine. Donc, on a commencé au mois de janvier avec Louise Lambrix et Philippe Rey, donc une toute jeune maison d'édition. Il y a eu, le mois dernier, une rencontre avec Suzanne De Pelt et son éditeur, Paul Tchaïkovski, qui nous a raconté un petit peu comment, finalement, avait évolué cette édition de création entre le moment où Suzanne publiait son premier livre en 93-94 et aujourd'hui. Et il avait été question avec POL de cette marge dans laquelle lui ne se situait plus totalement, puisque contraint par sa propre évolution structurelle a cédé la quasi-totalité des parts de sa maison d'édition à Gallimard. On ne peut plus dire qu'il arpentait ce champ particulier de l'édition tel que Franck nous en parlera tout à l'heure. Mais néanmoins, il reconnaissait qu'il se produisait, enfin qu'aujourd'hui un certain nombre de structures apparaissaient, pour certaines de nature associative, et que ces structures proposaient des pratiques extrêmement nouvelles dans le champ de l'édition, que ces structures avaient aussi la particularité de travailler pour certaines en relation directe avec la musique, pour d'autres avec l'art contemporain, et que ces pratiques justement de l'art contemporain avaient peut-être vocation à irriguer le champ de l'édition littéraire. En tout cas, c'est un petit peu dans cet esprit que j'ai donc invité aujourd'hui donc Rémi Cecchetto, qui publie, comme on le verra tout à l'heure, principalement aux éditions de La Tente, dirigées par Franck Prujat, les éditions de La Tente étant situées à Bordeaux. Et donc on parlera plus longuement dans la deuxième partie, comme on l'avait fait jusqu'à présent, avec Franck, des conditions d'existence de sa maison, des conditions de fonctionnement et des perspectives qu'il imagine pour le développement de sa maison d'édition. En attendant, donc, vous venez d'entendre un extrait donc, de Là où l'âme se déchire un peu, mais pas toute, qui est un texte publié par Inventaire Invention, que j'ai le plaisir de diriger. Et ce texte a été publié donc au mois de septembre 2006, dans le cadre de la collection que vous connaissez sans doute. Et ce texte, pour moi, a une importance particulière puisqu'il s'agit de Sans papier, qui est un combat que je soutiens du mieux que je peux, que j'ai pu. Et ce texte a également la particularité, avec un texte qui s'appelle Une disparition et tout, publié aux éditions de l'Attente, particularité de marquer une sorte de tournant, enfin c'est comme ça en tout cas que je le ressens, dans l'œuvre de Rémy Cecchetto, qui est plutôt un auteur, qui est un auteur dramatique, en tout cas un auteur qui écrit, je ne dirais peut-être pas pour le théâtre, mais dont la plupart des textes ont fait l'objet de mise en scène ou d'adaptation pour le théâtre. Et il me semble qu'après Confiote, qu'après Petit Déj, publié aux éditions de l'Attente, dans les années précédentes, en 2006, a fait mouvement, je dirais, une préoccupation plus sociale, plus politique. Là où l'âme se déchire, donc un texte sur les sans-papiers, je dirais presque un texte avec les sans-papiers, et Une disparition et tout, qui raconte, on en parlera tout à l'heure, et il lira un extrait à la fin de cette rencontre, une disparition qui traite non seulement de la disparition d'un homme il y a une dizaine d'années dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, mais qui dresse surtout le portrait de ce quartier très particulier à Bordeaux. Donc ma première question pour Rémy, évidemment, et c'est de lui demander comment s'est produit ce tournant, et s'il considère d'abord qu'il s'agit d'un tournant dans son œuvre. Est-ce que il s'agit pour toi d'une évolution lente ou d'une rupture dans l'élaboration de ton travail et de ton œuvre?
C'est plus une évolution, parce qu'en 1999, j'avais écrit une pièce, on m'avait commandé un texte de théâtre pour commémorer la fin de siècle. J'ai écrit un spectacle qui s'appelle Quel monde, fin de siècle, où tous les jours je lisais le journal de manière à choper tous les jours dans le journal. J'ai acheté plein de journaux, ça m'a coûté une fortune, et à extraire des personnages. Toute l'année, le 1er janvier, il y avait Euro qui arrivait, qui disait Arre, je m'appelle Euro. Il y avait un système démocratique, comme ça je leur donnais 3 minutes de parole tous les jours. Ça faisait un spectacle de 13 heures qu'on voyait en 4 trimestres, 4 soirs. Et donc il y avait un souci comme ça d'être vraiment dans l'actualité, d'être vraiment dans ce qui se passait. Ça pouvait être aussi le fait divers, c'est le monde tel qu'il est. Voilà. Et donc à ce travail de 365 portraits, j'ai ajouté, parce que ça avait bien marché, on m'avait redemandé un autre travail, et un peu sur le même principe, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Quel monde intime, Quel monde fin de siècle, Quel monde intime, où là je brossais 135 portraits qui venaient de l'intérieur, comme ça, pas des gens que je connais, pas personne s'est reconnu, mais tout, je lisais pas le journal, tout sortait de ma caboche ou d'ailleurs. Et donc c'est toujours cette balance entre l'actualité et puis mon intérieur, entre le réel tel qu'il se déroule aujourd'hui et puis ce qui vient plus de dedans, quoi. Et en ce moment, j'écris partout en France des portraits, mais des vrais portraits. Je racontais ça tout à l'heure à Franck, où je vais dans la rue, dans les supermarchés, dans les théâtres, à la campagne, avec mon ordinateur. Les gens viennent me voir et je les regarde, on discute 10 minutes. Je leur file mon appareil numérique. S'ils ont l'air sympas, je ne leur demande pas leur clé. Autrement, je leur demande leur clé de voiture. Ils vont se faire un portrait, ils vont se tirer un portrait, eux. Et moi, ils me laissent une demi-heure à écrire et je fais un portrait d'eux. Voilà. Donc, il y aura en tout 1000 portraits qui brassent mon travail. L'actualité, l'intérieur et puis le monde tel qu'il est, mais tel qu'il se déroule exactement sous mes yeux, quoi.
Et donc, pour toi, la rencontre avec les sans-papiers qui est au cœur de ce livre ne fait que s'inscrire dans ce travail-là, ou elle a un statut tout de même particulier?
Bah oui, c'est un statut bien particulier, parce que c'était vraiment s'arrêter sur juste une seule actualité qui me touchait de près, parce que dans l'école de mes gamines, il y avait une histoire de sans-papiers. Juste s'arrêter et en faire un texte, uniquement, quoi. Donc, tout en accueillant les sans-papiers chez moi, ben, j'écrivais le texte. Voilà, c'était du nouveau pour moi. Oui. Ouais.
Et combien de, finalement, de temps as-tu passé avec cet homme et cette femme et leurs enfants qui ont accompagné l'écriture de ce texte? Est-ce que tu peux nous raconter en fait les circonstances dans lesquelles s'est produite l'écriture de Laolam?
Comment je les ai connus, etc. Ouais. Mais c'était très touchant parce que c'était trois gamins, c'est trois petits qui viennent du Kirghizistan, qui sont en maternelle, et puis le papa avait été arrêté dans un contrôle d'identité, hein, comme souvent. Et la maman, tout d'un coup, a appelé à l'aide. Elle était complètement paumée. Il était en centre de rétention. Et c'est là qu'on l'a rencontré, c'est là qu'on l'a défendu, mais à pas beaucoup, parce que finalement, des fois, dans les écoles, ça marche pas vraiment. Ni l'école, ni le directeur, ni les instituteurs, ni les parents d'élèves ne marchent dans ce genre de combine. Donc on a dû l'aider sur un groupe scolaire de 250 familles. On devait être, allez, 10 à l'aider. Voilà, donc on a fait un gros tapage médiatique. C'était en décembre l'année dernière, ça commençait. Vous entendiez parler de RESF, moi aussi, finalement. Je découvrais ça, Réseau Éducation Sans Frontières. Donc, une couverture médiatique qui a permis la libération du papa le 25 décembre. C'était magnifique. Je suis allé le chercher à Paris, je l'ai ramené dans sa famille. Et je me disais, il faut écrire. J'avais du temps. Je n'ai pas toujours du temps non plus dans la vie. Et là, j'avais un peu de temps et je me disais, il faut écrire, quoi. Donc, tout simplement, germer l'idée au fur et à mesure que je les défendais, de faire quelque chose aussi, de faire un concert de soutien à Angers. Et puis, on m'avait dit, bah, s'il y a un concert, ce serait bien qu'il y ait un texte sur scène. Donc, tout ça, ça prenait forme, quoi. Et voilà, j'ai écrit le texte assez vite. En fait, je me suis rendu compte qu'il était très près, déjà tout près, dans le cœur ou dans la tête et dans la main. Tout ça, c'était descendu dans la main. J'ai pas fait beaucoup d'efforts, enfin, ça s'est passé assez vite, quoi, en fait.
En même temps, ce texte, il ne s'agit pas du tout d'une retranscription d'une histoire telle que tu as pu la vivre. Il a une dimension poétique évidente, mm-hmm. et une dimension politique également, mais pas dans un rendu réaliste. Le réel, là, pour le coup, surgit, je dirais presque au détour d'une esthétique qui prend à revers la question même de la réalité. Par contre, dans le texte « Une disparition », le procédé stylistique enfin, n'est pas du tout du même ordre. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu expliques que deux textes presque contemporains qui traitent de sujets non pas voisins mais qui s'inscrivent quand même dans une perspective on va dire sociale évidente finalement peuvent aborder l'écriture d'une façon aussi différente?
Moi, j'écris pas du théâtre, j'écris pour la scène. Je considère que j'écris pour la scène, j'écris pour des musiciens, j'écris pour des gens de théâtre, j'écris pour des photographes. Je cherche plein d'expressions comme ça. Et je crois que j'essaie d'écrire de la parole constamment, quoi. Dans Là ou l'âme, il y a une certaine parole qui est effectivement plutôt travaillée, et puis quelquefois lyrique, des choses comme ça. Alors que dans Une disparition, c'est des choses, vous verrez tout à l'heure, je vais vous lire. Il y a des choses comme ça qui, visiblement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de travail, mais ça me demande quasiment plus de travail d'écrire une espèce de langage comme ça, courant, de formules, de paroles, on dit une chose, on revient dessus, enfin des petits systèmes comme ça de prise de parole. Donc, pour moi, c'est toujours la même chose, c'est écrire de la parole, quoi. Et après, effectivement, dans Là où l'âme, il y a peu de réel, d'anecdotique qui est là, hein, tout est... J'ai vécu suffisamment près de ces gens pour que ça soit vraiment une histoire de cœur entre nous, puis que ça soit finalement dans Là où l'âme une manière d'histoire de cœur aussi relatée entre les êtres. Alors que pour Une disparition, je suis un écrivain qui a la bougeotte, j'ai pas de système en fait. J'avais réclamé de pouvoir aller dans le quartier de Bacalan à Bordeaux pendant 8 jours, ou un peu plus, je sais plus exactement, et j'allais chez les gens. le théâtre qui m'embauchait m'avait fait plein de rendez-vous chez les gens. Le matin, je prenais des cafés. À partir de 11h, on prenait l'apéro. On reprenait le café à 14h. Et puis, on reprenait l'apéro le soir, évidemment. Et je passais des journées entières avec les gens. Voilà, à discuter du quartier, de leur vie. Puis les gens, ils parlent énormément. Quand c'est comme ça, c'est génial. Et petit à petit, je récupérais, moi, quelques notes. J'aime bien travailler parfois comme ça aussi, dans une espèce de direct. Même si après, tous les personnages qui sont là, il n'y a pas une seule personne que j'ai rencontrée qui est peinte, qui est brossée, qui est écrite. Tout est de la reconstitution. Tout est inventé. Parce que, évidemment, il faut que ça passe par moi, ce genre de spectacle. Donc, l'autre fois, je parlais avec Franck, je parlais des histoires de petits cailloux. Quoi. Des fois, j'ai l'impression de... Je jette une idée comme ça, qui, par exemple, une personne pour une disparition, une idée qu'elle a sur la disparition, qui lui est intime, qui lui est propre. Et puis, j'essaye de faire grandir des ronds pour que ça aille plus loin dans le monde. Ça parle de la jalousie, ça parle du deuil, que ça parle de choses qui nous sont communes à tout un chacun, finalement. En tout cas... qui font partie de mon monde à moi. Donc le principe est souvent le même, quoi. Par d'une anecdote, d'un détail, j'adore les détails, et j'essaye de faire grandir l'idée, quoi, la chose.
Est-ce qu'une disparition répondait à une commande ?
Oui, moi je suis quelqu'un de théâtre, donc il y a des commandes, oui. Puis après, c'est le fruit aussi d'une collaboration.
Et quel était l'objet de la commande, en l'occurrence ?
C'était le metteur en scène, il est de Bacalan. Et c'est un quartier fou à Bordeaux, hein. C'est un quartier très particulier. Il m'avait dit qu'il faudrait faire un spectacle sur Bacalan, ça serait bien. Et moi, en traînant à Bacalan, je me rendais compte que tout disparaissait, quoi, à Bacalan. Il y avait une raffinerie, elle n'y est plus. Il y avait eu des débarquements de morue, ça avait disparu. Il y avait ci, ça avait disparu. Il y avait ça, c'était plus là. Donc est née tout doucement l'idée de faire disparaître quelqu'un, finalement, qui serait juste un prétexte à parler, pour le coup, du réel, mais qui n'est plus là, hein, qui est, hop, que c'est en creux, quoi.
D'accord. Est-ce que le réel n'est pas toujours en creux, justement ?
Mais bien sûr, oui. Oui.
Mais est-ce que tu peux raconter un tout petit peu plus une disparition ?
Mais quoi ?
Raconter, dire un peu plus aux auditeurs comment se construit ce livre, justement.
Oui, alors après, c'est le fruit d'une collaboration avec un metteur en scène et puis de réalité de théâtre, quoi. Des fois, quand on écrit du théâtre comme ça, là ou là, moi je l'ai écrit tout seul, ça regarde que moi, c'est l'écriture. Après, là, c'est une commande, on collabore. Et puis, moi, je ne voulais pas faire de spectacle en salle. Hein. Je trouvais ce quartier très beau, je me disais, il faut déambuler dans ce quartier. C'est compliqué de déambuler. Et on est tombé d'accord de faire une partie en déambulation dehors et puis de faire une partie en intérieur. Donc, ça, voilà. Et donc, la déambulation se faisait en minibus. Il y avait des comédiens qui partaient, qui conduisaient des minibus, qui avaient le trac d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de conduire des minibus, et qui emmenaient des spectateurs dans plein d'endroits. Et puis, ils avaient enquêté sur la disparition d'un monsieur et puis ils racontaient. Ils étaient seuls avec un groupe à déambuler dans le quartier. Disant, voilà, nous on est le théâtre, on est là pour éclairer des zones d'ombre qui sont sur la planète ici et là, pour faire la lumière, là où tout le monde a échoué. Nous, le théâtre, on peut faire ça, résoudre des choses, quoi. En vain, ça ne marchait pas. Et donc, la deuxième partie du spectacle, c'était un spectacle de 3h, je crois. Elle se passait en salle. Et là, il y avait des comédiens, mais aussi des habitants du quartier, c'était extraordinaire, qui prenaient tous les rôles. Et qui disaient, voilà, moi je m'appelle un tel, et ben, je l'ai bien connu, et puis tata. J'ai donné plein de détails.
Oui, si on veut. En fait, la construction d'une disparition, c'est effectivement cette espèce de portrait en creux où chacun de ces habitants du quartier qui sont censés l'avoir connu parle de cet homme et élabore toutes sortes de conjectures et d'hypothèses sur sa disparition. Et il est notamment question... en ouverture d'un attentat à Djerba, en fait, en 98, où cet homme serait peut-être disparu. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que tu écrivais pour le théâtre, pour la scène. Est-ce que je me demandais, au fond, si si ton rapport à l'écriture s'était toujours inscrit dans cette perspective-là, ou non ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une forme que ton écriture a prise au gré de circonstances particulières ?
L'idée d'écriture, pour moi, est venue au moment de Sarajevo, en fait, hein, de la Bosnie, enfin, de l'ex-Yougoslavie. Je voulais prendre la parole et je me suis dit, je vais écrire. Ça sera le moyen, et le théâtre, ça me semblait le moyen le plus rapide pour être entendu, quoi. Donc il y avait une nécessité comme ça, qu'a créé l'outil. J'ai trouvé l'outil théâtral, parce qu'effectivement, des fois, le théâtre, là, je viens de faire un spectacle, en 2 mois, c'est dans la boîte, quoi. On peut, paf, 2 mois après les événements, parler de quelque chose à chaud, quoi. Et même, au fur et à mesure des tournées, venir compléter le spectacle par ce qui se passe, par exemple. Et je trouvais que c'était un outil magnifique. Moi, je voulais écrire, mais je voulais surtout prendre la parole, quoi. Et l'outil, c'était le théâtre. Ensuite, j'adore collaborer. J'adore travailler avec des gens. Donc, faire du théâtre, enfin, en tout cas, faire de la scène, c'est aussi faire des réglages de texte, faire des coupures, faire des travail avec les comédiens. Je réclame toujours les temps de répétition. J'essaie d'être là. Enfin, c'est pas facile. Pas toujours possible, j'ai un emploi du temps aussi. Mais voilà, et pour moi, le texte théâtral, souvent, peu importe ma version, ce qui est important, c'est celle qu'on arrive à régler au moins pour la création, quoi.
C'est-à-dire qu'au fond, le dispositif a un rôle déterminant dans l'écriture même du texte que tu prépares. Le dispositif scénique, le fait que ce texte sera de toute façon porté à la scène et que c'est son mode d'existence principal, que le fait qu'il puisse être publié en livre, finalement, a une importance secondaire dans ces circonstances.
Ah bah, j'étais pendant très longtemps à ne pas publier, à ne pas chercher de publier, me disant qu'il n'y a que la scène qui importe, et puis l'objet livre, ce n'est pas très intéressant, c'est bon pour quelques-uns, quoi. Et après tout, il y a les tapuscrits qui circulent, et puis ça suffit pour les professionnels. Mais le quidam lecteur, je me disais, voilà. Donc, après, j'ai inventé des livres, je me suis dit, je vais inventer des livres, par exemple les petits-déj, les confiottes, qui sont des textes pour la bouche, mais qui sont lisibles par tout un chacun, quoi. Mais c'était toujours dans un souci de comédien, dans un souci de scène. Mais là où je m'éloignais de plus en plus de l'idée de théâtre, c'était plus pour le corps du comédien, c'était juste pour à dire, quoi, hein, des choses comme ça, ou à chanter. Et après tout, je suis beaucoup recherché par les musiciens, très souvent, même quand j'écris pas pour la musique, il y a des musiciens qui s'emparent, qu'ils soient de rock ou classique ou de world music. Ils s'en emparent et puis ils font de la musique avec, ils chantent avec ça.
Mais est-ce que le fait justement d'être publié par les éditions de l'Attente ou par Intervention ou d'autres, donc c'est à partir de 2000, je crois, un tout petit peu avant que tes premiers livres ont été publiés. En tout cas, est-ce que le fait d'être désormais 2002, publié 2002. Par une maison d'édition et donc d'avoir affaire à un objet livre, est-ce que tu as l'impression que ce médium particulier change ton rapport à l'écriture ? Est-ce que ça le modifie légèrement ou pas du tout, en fait ?
En tout cas, ça me donne envie de faire des livres, quoi. Et il y a une partie de mon année que je consacre à ça, quoi. Ouais. À essayer de trouver du temps pour faire au moins un livre tous les 2 ans ou un peu plus qu'un livre par an, ça dépend. Mais une écriture qui se consacre, voilà, à ces textes pour la bouche et qui iront dans des livres, oui. C'est beaucoup modifié, ça, oui.
Ouais. Je te demande ça parce que en recevant le manuscrit de Là où l'âme se déchire, bien que je savais qu'il s'agissait d'un texte qui pouvait être mis en scène, en même temps, à aucun moment, cette perspective-là n'a interféré dans la lecture que j'ai pu en faire. C'est-à-dire que pour moi, de A à Z, il s'agissait avant tout d'un texte littéraire et d'un livre. Le fait qu'il puisse être monté plus tard, pourquoi pas, mais ce n'était pas trop mon souci. Donc l'objet de ma question, c'est ça, c'est de savoir si le fait d'être publié par Franck et donc d'avoir une relation suivie avec un éditeur qui est ton éditeur, est-ce que le fait de travailler dans cette perspective-là de l'objet livre qui a une dimension particulière, est-ce que tu sens que ton rapport à l'écriture se modifie et qu'il n'est plus aussi exclusivement tourné vers la scène, vers le fait d'être dit à voix haute, mais qu'au fond, il y a une autre lecture possible qui naît et qui n'était pas, donc, d'après ce que tu dis, imaginé au début de ton...
Moi, je crois que je prémédite rien et qu'après tout, j'ai jamais lu beaucoup d'auteurs de théâtre, à peine, et j'ai lu beaucoup de romanciers ou de poètes, et que petit à petit, je vais... à mes goûts littéraires aussi, quoi. Je chemine sans y penser. J'essaye de pas penser, moi.
Comment est-ce que toi, Franck, tu vis ça finalement? Tu as publié assez peu d'auteurs qui écrivent pour le théâtre.
Jamais, c'est
et
le
donc,
seul.
Voilà. Mmh. Et donc, comment toi, tu perçois cette qualité dramatique du travail de Rémy, est-ce que tu la perçois, est-ce qu'elle t'intéresse ou pas du tout?
Je dirais pas que Rémy a un travail dramatique, quoi, parce que j'aime pas ce mot. Le théâtre, j'y vais rarement, et je m'intéresse aux arts de la scène, bien sûr. Mais il y a une chose qui a été dite par rapport au travail de Rémy qui est importante, c'est qu'il établit un langage commun avec l'autre, il est curieux de l'autre, et en publiant Rémy, moi j'ai découvert un autre pan, disons, de la littérature, tu disais poétique peut-être. Pour moi, c'est pas vraiment de la poésie, c'est un... Disons que par le livre, le lecteur, il trouve une passerelle, Et le livre devient un objet comme ça, un passeur. Et pour Rémy, je crois que c'est très important parce que ses textes sont portés à la scène par des metteurs en scène. Donc il écrit pas pour le théâtre, mais pour des metteurs en scène. C'est très différent, je pense. Et les gens qui assistent à ces spectacles repartent avec une autre vision, un morceau du spectacle, quoi. C'est quelque chose qui est écrit, qui est indélébile pour eux. Et à chaque fois, ils peuvent revenir sur le spectacle chez eux, par exemple en rouvrant ou en faisant passer le livre à quelqu'un, en parlant. Et je crois que c'est important, ça, pour Rémy.
Je parlais de poésie parce qu'en fait, dans Laoulam, contrairement à Une disparition ou Petit-déj ou Confiote, il y a, enfin, Rémy parlait de dimension lyrique, en fait. Mais il y a une dimension poétique qui me semble un peu plus forte, plus dominante en tout cas, que dans les autres livres qu'il a écrits. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu as rencontré Rémy, en fait. Comment s'est fait c'est la première publication de son livre?
On travaille ensemble depuis 4 ans maintenant, depuis 2003. Et Rémy, en fait, est un auteur, je dirais, qui est arrivé par la poste. Hein, je ne connaissais pas du tout son travail. En revanche, Rémy, lui, connaissait nos livres. Il avait repéré à Bordeaux, dans les librairies, nos petits livres. Et Rémy m'a envoyé Petit-déj. Et j'ai tout de suite vu un livre se construire. Donc mon idée, c'était de faire un petit livre portable. C'était 62, pas variations, mais dispositifs ou situations de petit déjeuner. Quelque chose qui est assez commun à nous tous, un rituel qu'on pratique tous.
Que vous prenez tous un petit déjeuner?
Ouais, c'est pas bien de ne pas prendre de petit déj. C'est pas bon. Par contre, lire petit déj, c'est très bien. Ça, c'est nécessaire. Et ce que je fais pour les livres comme ça, quand j'ai une idée et je vois le livre apparaître, je fais collaborer un artiste. Et à Bordeaux, il y a un artiste qui s'appelle Étienne Monod qui peint des bols. Et ça me paraissait évident de faire collaborer le texte de Rémy avec un peintre qui peint des bols, surtout pour Petit-déj. Et ce texte a eu un succès assez considérable, et actuellement il est médaille d'argent un best-seller des éditions de l'Attente. Il talonne de près ma vie avec le docteur Lacan de Jacques Roubaud, quand même. C'est assez impressionnant.
Facile, facile.
Il est retiré très régulièrement. Enfin, tous les 6 mois, on retire quelques exemplaires. On pourra parler du fonctionnement un peu atypique et particulier. Puis, 2 ans après, Rémi nous a proposé Confiote, 70 variations sur la confiture. Là aussi, ça nous touche beaucoup, aux éditions de l'Attente et à Cuisine de l'Immédiat, qui est l'association qui gère, disons, plusieurs activités. On est très intéressé par tout ce qui est culinaire, l'art culinaire, et le texte qui s'articule autour de la nourriture. Et Confiote, voilà, j'ai demandé à notre fille qui a 14 ans de dessiner la cuillère qui est en couverture. Donc une collaboration encore avec une future artiste peut-être. Et une disparition, tu le spécifiais Patrick, c'est un peu particulier parce que pour moi c'est le premier texte théâtral où il y a un dialogue. Il y a des gens qui interviennent, qui prennent la parole. Et il y a 15 jours, avec Rémi, on était invités à un festival à Bordeaux qui s'appelle Demander l'impossible. Et Rémi a parlé d'un projet qui a été mis en scène qui s'appelle Rescousse. On parlera peut-être des projets tout à l'heure, mais c'est important. Rescousse, c'est un texte que Rémi a écrit au Liban. Et il parlait en même temps d'une disparition, et il parlait en même temps de Rescousse, et Rémi a dit ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est écrire, c'est prendre la parole aussi. Et je trouve que là, on ne peut pas passer à côté de ça, quoi. Pour toi, et une disparition, moi je l'ai accepté. Bon, c'est un texte de commande de Lydak, et tu demandais comment il était construit. En fait, ça se voit sur la couverture, c'est une espèce de puzzle, imbrication de paroles, de personnes. Et Bacalan, on a oublié de spécifier, c'est un quartier très populaire à Bordeaux, en friche, avec plein de friches. Tout disparaît. La cité lumineuse dessinée par Le Corbusier a été rasée. Enfin, il n'y a quasiment plus rien, il n'y a que des maisons castor. C'est un peu particulier, là. Et Rémi est allé voir les gens, donc. Et donc, ça faisait encore une autre parole. Rémi, c'est un filtre, finalement, devient un filtre sur le questionnement social, quoi, aussi. Je ne sais pas si j'articule, tout le monde comprend, j'ai l'impression d'avoir la bouche sèche, je comme l'archi du sèche.
Tout le monde comprend. Pour parler peut-être un peu plus de Cuisine de l'Immédiat et des éditions de l'Attente, est-ce que... Pour commencer, tu peux nous donner justement définir un peu cette articulation entre Cuisine de l'Immédiat d'un côté, les éditions de l'Attente. Donc les éditions de l'Attente, il s'agit d'une sorte de label finalement, développé par un collectif, c'est ça ?
Non, pas exactement. Les éditions de l'Attente sont co-dirigées par Françoise Valéry et moi-même. Depuis 15 ans, nous soufflons nos 15 bougies cette année, 2007, et le collectif d'artistes s'appelle Cuisine de l'Immédiat. Sont 3 artistes à la base qui ont créé cette association, qui regroupait sous son statut plusieurs activités, dont l'art culinaire, des espèces de happenings autour de la nourriture. Notre premier président en 1918, c'était Jean-Marie Amat, qui est un grand chef cuisinier. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec le livre, la littérature contemporaine? En fait, pour nous, c'est assez évident, quoi. Même si on ne publie pas que des livres de cuisine, c'est une alchimie, la cuisine au sens large.
Vous publiez assez peu de livres de cuisine, quand même.
Oui.
Confiote, ce n'est pas un livre de cuisine.
Non.
Donc,
tu donnes pas les recettes d'ailleurs.
Donc il y a ce collectif qui est une association 1901, c'est ça, et qui donc a décidé il y a une quinzaine d'années, assez vite donc après sa création, de publier les premiers livres sous le label Les Éditions de l'Attente.
Non, c'est les éditions de l'attente étaient sont toujours un nom. C'était un peu comme un groupe de rock.
Oui, c'est ça, un label.
C'est un label. Voilà. Et en 1998, on a donc déposé les statuts de cette association qui s'appelle Cuisine de l'immédiat.
D'accord.
Donc, édition de l'attente avait un gestionnaire, finalement, qui est Cuisine de l'immédiat. C'est un peu compliqué, mais ça va venir. Et depuis l'été dernier, pour avoir une plus grande lisibilité comptable, disons, les éditions de l'attente sont inscrites au journal officiel.
Tant qu'association.
En tant qu'association, l'OS 1901.
D'accord. Je n'ai pas tout saisi, mais c'est pas grave. Donc les éditions ont publié combien de titres à ce jour?
Actuellement, notre catalogue doit compter environ 150 titres, avec un rythme d'une douzaine ou une quinzaine de livres par an publiés. C'est un petit peu accéléré ces dernières années, je dirais, avec de plus en plus de manuscrits reçus. Des livres un peu plus importants en nombre de pages, donc encore une autre gestion, mais on parlera de commerce tout à l'heure peut-être, avec plusieurs finalement plusieurs lignes éditoriales mêlées. Il y a si on accueille des textes comme les textes de Rémy, c'est qu'on a une vision grand angle de ce que peut être la littérature de création, la littérature contemporaine. Et dans ce catalogue, on défend autant des premiers textes et on est rejoint, on collabore autant avec des auteurs connus et plus que reconnus.
Donc comme Roubaud, Nathalie Quintane, Roubaud, tu en parlais tout à l'heure.
Oui.
Quintane, Frédéric Léal,
Charles Penquin,
Véronique Pitolo, voilà.
Rémi Cecetto, maintenant. Et de jeunes artistes écrivains aussi. On a un cursus plutôt artistique, on n'a pas un cursus littéraire, on n'a pas fait lettres modernes. Avec Françoise, on vient des Beaux-Arts. Et on fabriquait déjà des petits livres aux Beaux-Arts. Et au départ, on ne voulait absolument pas publier d'auteurs. On se disait, oh là là, ça doit être compliqué. Après, on a plein de problèmes. Il faut les conforter, tout ça. En fait, c'est très intéressant au niveau relationnel. C'est beaucoup de rencontres par an. Bien évidemment, une fois qu'on a publié un auteur, on suit son parcours, son travail. On essaie d'aller jusqu'au bout. J'oublie quelque chose, peut-être. Je ne sais pas. Tu as une autre question?
Je vous trouve. Désespérément, cette petite boîte avec de l'eau à l'intérieur.
La petite boîte?
Oui, que je n'arrive pas à ouvrir.
D'une main, c'est si tu veux en faire deux.
Je t'attends. Bon. Et donc, les éditions de l'attente ont lancé il y a quelques années une collection qui s'appelait Weekend. Est-ce que cette collection existe toujours? Et est-ce que tu peux nous préciser le type de... la particularité, en fait, de son fonctionnement? Mm-hmm. Puisque il s'agit d'une chose pas très courante.
Oui, en effet, c'est la collection Weekend, c'est la collection qui en fait nous a fait un petit peu connaître en France. Il y a eu 50 titres parus en 4 ans et demi, ça fait une régularité d'à peu près un livre par mois, en gros. Et la particularité, c'est que j'avais lancé cette idée de faire un livre, faire, en sens fabrication et maquette, le temps d'un week-end. Cette contrainte-là, je trouvais qu'elle avait suffisamment de dynamisme, de fraîcheur et de spontanéité pour arriver à déclencher des choses dans un texte et pour des auteurs s'y coller et même les jours fériés. J'avais spécifié dans chaque livre, il est inscrit, ce livre a été publié le temps d'un week-end, les jours fériés sont pris en compte. C'était un petit peu... c'était pas une blague parce que c'était vrai. Et le livre était imprimé dans la semaine suivante. Donc je ne peux pas ne pas parler ici de Michel Grangot. Je raconte un petit peu l'anecdote. Michel Grangot est une poète très connue aussi, Et elle a rejoint les éditions de l'Attente par la collection Week-end. J'ai trouvé cette dimension de contrainte assez intéressante. Et elle a été invitée à Beaubourg à lire un texte inédit. Puis je savais qu'elle voulait faire quelque chose dans cette collection. Et donc, elle a écrit pour Beaubourg le bébé gaiement du beau Beaubourg, qu'elle a lu ici. Et 15 jours après, le directeur, la personne qui l'avait invitée, recevait le livre. Et ce qui est assez rare dans l'édition, finalement. Et on a gardé cette dynamique-là, cette énergie-là. Quand on reçoit un texte d'auteur, on essaye d'aller le plus vite possible pour que le texte soit le plus vivant et colle le plus à la réalité, en fait, quand il a été écrit. Chez un éditeur commercial, disons, des mammouths comme vous connaissez tous. Peut-être le texte, c'est Nathalie Quintin qui me disait ça au téléphone, elle me disait que 2 ou 3 ans après, pour un auteur, quand il est publié, le texte, c'est comme s'il était un peu mort, quoi. Ça retombait comme ça, il n'y avait plus la même énergie. Puis après, il faut partir en tournée, faire des lectures, et puis c'est pas pareil, quoi. Puis c'est un travail, on l'a déjà digéré, en fait. C'est ça, Rémi, hein, t'es d'accord? Et donc, cette collection Week-end, on l'a clôturée parce qu'on n'en pouvait plus un peu. C'était très physique. Ça prenait vraiment quasiment tous les week-ends. Bon, on peut dire une année, c'est 52 week-ends, mais bon, il ne faut pas rêver, on travaille à côté. Il y a la vie aussi. Et donc
la collection est close, mais en même temps, il y a quelque chose de cette collection qui a filtré dans le fonctionnement qui est devenu habituel des éditions de l'Attente. Cette réactivité, oui. Mais est-ce que, au niveau de la fabrication, par exemple, tu disais tout à l'heure, bon, quelques jours plus tard, le livre est fabriqué. Est-ce que vous étiez les propres imprimeurs de vos livres dans le cadre de cette collection Week-end?
Oui, en effet. Enfin, pour ma part, j'ai une petite formation d'imprimeur, donc j'ai imprimé la nuit les couvertures en sérigraphie. Françoise fabriquait les maquettes en collaboration avec l'auteur, donc le Week-end. Mmh. Et on envoyait les fichiers chez l'imprimeur, enfin, numérique, les PDF dans la semaine, et à la fin de la semaine, le livre était broché et prêt à partir par la poste, quoi. Mmh.
Donc vous n'aviez pas d'imprimerie, vous n'étiez pas imprimeur directement, vous faisiez imprimer par un...
Oui, on a toujours sous-traité l'intérieur, ouais, sauf quelques cas particuliers où il y a des interventions d'artistes dans les livres.
Donc vous étiez imprimeur, enfin concepteur de la maquette, de la couverture, ouais. C'est ça, mais vous faisiez imprimer. Et est-ce que le tirage, enfin sans entrer trop dans les détails, mais est-ce que le tirage actuel de vos livres, d'une façon générale, est très différent de ce que vous pratiquiez à l'occasion de cette collection Week-end?
J'ai oublié de spécifier quelque chose de très important dans la collection Week-end, c'est que quand on publiait, quand un auteur nous envoyait un manuscrit, après il recevait tous les livres qui paraissaient. Il y avait un souci comme ça de circulation du livre, ce support, cet objet de communication qui devenait un objet de communication, une bonne carte de visite pour l'auteur qui n'était pas connu. Mettre en confiance un auteur en publiant un premier texte, c'est très important, à mon sens. Et pour les tirages, on tire en fait en fonction du lectorat potentiel.
Mais tu dis, il recevait la totalité en fait du tirage?
Après, oui. Par exemple, Lucien Suel a publié en 6e position dans la collection, il a les 44 autres livres. Donc il découvrait des auteurs. Moi, je mettais en relation des auteurs aussi, entre eux, qui ne se connaissaient pas, ou de nom, ou qui avaient entendu parler de leur travail. Là, il recevait le travail d'un auteur.
Il recevait donc le travail des autres auteurs.
Des autres auteurs, voilà.
J'ai pas bien compris.
Oui. Voilà.
Mais en fait, dans le tirage qui était réalisé des ouvrages que tu publiais, il y avait à la fois, si j'ai bonne mémoire, un système de vente par correspondance, parce qu'en fait, les adhérents de l'association pouvaient justement bénéficier d'un grand nombre de titres, puisque par ailleurs, leur présence en librairie était assez rare. Il y avait quelques libraires qui possédaient vos livres, mais l'essentiel de leur diffusion se faisait par correspondance finalement.
Absolument, par bulletin d'adhésion, comme vous avez. On a gardé en fait le même fonctionnement. Vous pouvez recevoir des livres par la poste. En fait, c'est un système de ouais, encore de. C'est pas pour éviter d'aller en librairie, parce que vu le tirage qu'on a, on n'a pas de diffuseur. Donc, on s'occupe aussi de diffusion. Et la petite collection week-end, bon, on a juste eu une petite vitrine à la Une pendant un mois, c'est tout. Mais à Paris, c'était un petit peu ingérable, parce que ce sont des staple books, ce qu'on appelle des livres agrafés, quoi. Et quand il n'y a pas de dos, c'est pas présentable sur table. Enfin, ça prend beaucoup de place. Il faut les mettre en façade. Parce que si on les range, on ne voit pas de titre, on ne voit pas d'auteur, donc ça ne sert à rien. Donc pour les librairies, ça fonctionnait un petit peu sur au coup par coup. Et voilà, ça se diffusait comme ça, en fait. Beaucoup de bouche à oreille.
Et donc le tirage, sans parler de tirage moyen, mais il pouvait osciller entre quelle limite
ben vous allez rire, mais entre 80 et 150.
D'accord. Okay.
Bon, maintenant, il y a plein de titres épuisés. On ne va pas retirer, je ne pense pas. Mais on a gardé à peu près ce mode de fonctionnement. On a en moyenne un tirage de 250 exemplaires pour un premier tirage. Et après, c'est réactif, c'est très rapidement. Je parlais de Petit-Déj qui a un retirage tous les 6 mois, à peu près. On gère à flux tendu tout le temps. C'est pour éviter de gérer un stock, d'abord, puisque c'est une maison d'édition à la maison. Donc, c'est une vraie maison d'édition.
C'est une maison carrée.
C'est clair. C'est une maison carrée, comme beaucoup de maisons, avec un petit aquarium où il y a tous les ordinateurs et puis notre stock. Et notre stock, ça représente, je sais pas moi, deux bibliothèques seulement. C'est pas grand chose. Donc c'est pas des cartons. On ne gère pas des cartons, quoi.
Comme on a vu.
Que mon rôle d'éditeur n'est pas d'enjamber des cartons. Enfin, j'ai autre chose à faire.
Voilà. Cependant, vous êtes quand même présent dans beaucoup plus de librairies qu'avant. Comment se fait ce travail avec les libraires? Est-ce que tu les démarches? Est-ce que tu attends qu'ils t'appellent? Je sais que vous êtes maintenant sur Electre, ce qui est récent. Donc toutes les commandes sont honorables, enfin peuvent être honorées, je veux dire. Et donc ça permet effectivement à tous les libraires de pouvoir vous commander directement des livres, ce qui n'était pas le cas avant. Mais est-ce que vous êtes tout de même présent dans le fond d'un grand nombre de libraires aujourd'hui? Comment se passe le rapport avec les libraires, en fait?
That is the question. Alors, depuis qu'on est sur Electre, en effet, tout le monde peut taper, toute librairie peut taper notre nom d'éditeur et nous commander des livres, que ce soit à Oulan-Bator ou à Libreville. Voilà. Ça marche dans le monde entier, en fait, ce qui est très bien. Et en fait, on travaille avec une trentaine, quarantaine de libraires en France. Et mon système de diffusion, c'est plus de s'établir un rapport de confiance et avec un interlocuteur. Rencontrer les libraires, c'est important, parce qu'il faut qu'ils connaissent justement notre catalogue. Lui faire découvrir des auteurs, c'est pas si évident que ça, parce que justement, eux, ils gèrent des cartons à longueur de journée, et ils n'ont pas que ça à faire. Prendre le temps de lire pour un libraire, c'est son rôle, certainement, mais ils ont de plus en plus de travail. Donc, c'est un petit peu à la confiance, quoi. Un petit peu à la confiance. On m'appelle, on me dit, Franck, c'est quoi tes nouveautés ou c'est quoi vos nouveautés et voilà. Puis avec Internet et les emails, ça va quand même beaucoup plus vite aussi. Sont beaucoup plus attentifs, les libraires, à nos publicités, disons, à nos avis de parution. Ça, c'est important aussi. Donc j'ai constitué, disons, un fichier adresse depuis plus de 10 ans maintenant. Mmh. Les gens qui sont assez attentifs et réceptifs à tout ce qu'on fait, c'est bien.
Est-ce que le fait d'être constitué en association représente pour toi un frein au développement des éditions de l'attente? Le fait de ne pas avoir donc un sou de capital, par exemple, rend difficile la gestion d'un stock. Du coup, est-ce que c'est cette organisation, je dirais, dans un type juridique particulier, qui détermine finalement le fonctionnement des éditions de l'attente, ou est-ce que c'est que les éditions de l'attente ont trouvé leur forme, leur fonctionnement, qui est celui que tu veux et que vous voulez faire perdurer, et qu'une structure associative correspond assez bien finalement à ce type de fonctionnement?
Disons que ça laisse une marge de manœuvre très grande, c'est très, très souple, et c'est une très grande liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contraintes finalement. On a des contraintes, évidemment, et de plus en plus, puisque il y a un effet boule de neige comme ça, et pour éviter de se faire engloutir par l'avalanche, disons, de commandes ou de recevoir des manuscrits par 4 ou 5 par semaine, c'est un travail de lecteur aussi. Mais pour le fonctionnement associatif, je dirais que, d'ailleurs, je dois remercier toutes les personnes qui nous soutiennent tous les ans. On a entre 70 et 100 personnes qui nous soutiennent tous les ans. Il y en a beaucoup dans cette salle. Et par leur... Ça va plus loin que de l'amitié, quoi. Ce sont des gens qui ont envie de découvrir aussi.
T'as pas répondu à ma question. Ma question, c'était de savoir, en gros, comment... Enfin, je vais la poser autrement. Comment tu vois l'évolution des éditions de l'attente, puisque vous avez de plus en plus de... Les gens vous connaissent de plus en plus. Donc, les libraires sont aussi susceptibles de désirer avoir vos livres de plus en plus souvent, en plus grand nombre. Comment se fait cette... Il y a quelques mois une double page dans le Matricule des Anges. Trois pages, me dit. Ce journal est lu par un très grand nombre de libraires, de bibliothécaires. Donc ça peut avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement des éditions. Donc comment...
Ah oui, on a reçu beaucoup de manuscrits.
Ouais.
Non, c'était vraiment très, très adorable de la part du Matricule, en effet. Matricule des Anges. Et ça a rendu une visibilité plus grande pour les libraires. En effet, il y a beaucoup de libraires qui lisent le Matricule. Et quand ils nous ont découvert, je ne sais pas, moi, bon, on travaille avec des libraires dans toutes les grandes villes de France, c'est évident, mais pour le libraire de, je sais pas, à Ribérac ou à Périgueux, c'était pas si évident. Et là, oui, on a pris une assise, en fait, par le biais de ces journaux qui nous relaient et qui nous font connaître, quoi. Mmh. Mais j'ai pas répondu à la question.
Non, mais la question, c'est de savoir si est-ce que tu as envie d'avoir plus de lecteurs, de vendre plus de livres.
Non.
Voilà, c'est ça.
Non, mais déjà, s'ils commandent deux livres de chaque au catalogue, ça fait 260 livres à envoyer. Ça fait de gros cartons pour nous.
Je comprends.
Mais déjà, faire cette démarche-là de commander au moins un livre de chaque, moi, j'en rêve. Mais en même temps... Donc, s'il y a des libraires dans la salle, ne commandez pas plus de 3 livres. Voilà. Non, depuis que les éditions de l'attente sont, oui, en effet, sur Electre.
Donc tu es contre le fait qu'ils soient sur Electre, en fait, si j'ai bien compris.
Mais j'ai mis du temps.
Est-ce que tu as envoyé ta lettre de protestation?
Nos livres sont aussi, comment s'appelle, Eric Maclot, que tu connais bien.
À la FNAC.
À la FNAC des forums, m'a tanné pendant 2 ans pour avoir nos livres. J'ai craqué. Il m'a eu. Il vend beaucoup de livres, c'est étonnant. Non, il fait son travail, mais il voulait absolument... Ah, c'est assez touchant comme ça de voir, par exemple, les livres de Rémy en façade, sur les pupitres de la FNAC. C'est bon. C'est vrai.
Grand moment. Donc,
t'y es pas, toi, si.
Si. Non, mais c'est des questions qui m'intéressent.
Sinon, j'appelle,
vraiment. Hein. Je sais pas si ça intéresse le public, mais moi, ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu envisages les choses, parce que il y a des choix qui pourraient se poser. Tu gagnes ta vie non pas directement par le fonctionnement de l'association. À un moment donné, si les éditions se développaient davantage, pourraient se poser la question, savoir comment est-ce que tu fais. Je veux dire, tes journées n'ont que 24 heures. Et tu disais à plusieurs reprises voilà, que tu ne peux pas tout faire. Tu peux pas... Donc, est-ce que c'est cette gestion de ton propre temps qui fait que tu n'as pas envie de te lancer dans un développement plus important, notamment de la production, des ventes, etc. Ou est-ce qu'encore une fois, c'est un choix, je dirais, éthique ou...
Moi, je ne parlerai pas de la production parce que ça passe après. Je crois qu'on a un travail à faire. Il y a des textes qui sont là, il y a des auteurs qui attendent pour les publier. D'abord, nos objectifs, c'est de...
Oui, mais il y a des lecteurs. Il y a des lecteurs qui seraient sans doute intéressés à la découverte des textes que tu publies. Est-ce que cette dimension-là ne t'intéresse pas ? Tu parles beaucoup des auteurs, mais... Est-ce que ton rapport au lecteur, je pense que tes auteurs aussi seraient désireux d'avoir peut-être quelques bons lecteurs de plus. Comment est-ce que tu je ne sais pas, comment Rémy aussi vit ça?
Mais Franck, c'est un rapport de proximité constant avec Franck. Je vais quelque part, j'ai une valise de livres avec moi, c'est toujours prêt. Je vais en lecture, et puis il m'envoie un mail, il me dit « Alors, comment ça a été ?» Il sait où je suis tout le temps, Franck. Et c'est ce rapport-là, moi, que je recherche, avant tout. Tellement, effectivement, amical et convivial. Hein. Et maintenant, il connaît tous les théâtres de France et de Navarre. Ça avance. Hein. Parce que finalement, il ne fait pas que des ventes, maintenant, dans les librairies. Il y a d'autres territoires aussi où on peut vendre des livres. Quand on fait des lectures, c'est bien d'avoir une valise de livres. Moi, je fais le petit vendeur, j'ai une petite feuille.
Oui. C'est bien de le préciser, parce que en fait, dans l'association, et ni les auteurs, ni nous-mêmes, on ne vit pas de ça. On n'a pas de contrat, enfin, on a un contrat de confiance quoi, avec les auteurs. Et c'est pour ça que c'est un collectif, vraiment, et tout le monde met la main à la pâte, quoi. Dans cette association. Et évidemment, tout le monde me dit, mais comment tu fais, tu gères quand même tel budget, tu vends des livres, enfin, on vend des livres. Et je dirais que quand on publie un premier texte, on tire à 250 exemplaires, personne ne connaît l'auteur. Si on n'a pas, comme ça des systèmes de circulation autres du livre, par la présence de proximité, être sur le terrain, qui va le faire et comment ça marche derrière. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg, tout ça, quoi.
Parce que, par ailleurs, tu es extrêmement présent sur un grand nombre de salons, par exemple. De petits salons où j'ai pu te voir, je voulais faire avec toi, d'ailleurs.
Oui.
Donc,
dans la forêt.
Dans la forêt. Et est-ce que... est-ce que cette présence sur quelques salons, on va dire, participe pour toi justement de ce rapport direct, cette fois avec les lecteurs qui vont venir te voir, te poser des questions et acheter tes livres? Est-ce que c'est une façon pour toi, oui, d'avoir là aussi, mais cette fois avec les lecteurs, ce rapport direct que tu aimes entretenir avec les auteurs?
En effet, on fait à peu près. Je suis présent sur 4 ou 5 salons par an. Et ça, c'est mon rôle aussi d'être présent derrière des tables et de faire découvrir des auteurs. Et quand on dialogue comme ça avec des lecteurs potentiels, donc des clients potentiels, on va dire, des lecteurs potentiels, Il y a leur histoire personnelle, leur façon de lire. Je peux prendre une demi-heure avec une personne pour savoir où il veut aller, quoi. Et je peux très bien vendre un livre de Rémy alors que la personne ne connaît pas l'auteur. Mais c'est le contenu, c'est le support, c'est le texte, quoi, qui prime avant tout. L'objet livre, bon, c'est vrai qu'on a une diversité de couleurs, c'est un peu, ça attire l'œil comme ça sur stand. Quand il y a 100 titres sur table, ça représente environ, 5-6 mètres de stand à gérer. Donc je cours beaucoup entre le bout de la table. Quand il y a 10 personnes sur le stand, c'est panique à bord, quoi. C'est du sport.
Je vois, mais tu as beaucoup maigri d'ailleurs, je trouve.
Mes cheveux, ils n'arrêtent plus de pousser. Je sais pas.
Je sais que tu es présent sur le site d'Inventaire Invention, donc.
Oui, merci beaucoup.
Où on trouve tes livres. Mais
je voulais signer.
Non, mais est-ce qu'il n'était jamais venu à l'idée de créer vous-même, toi-même ou avec Françoise, un site internet qui proposerait différents services aux lecteurs de tes livres?
J'aime pas trop le langage HTML. Non, c'est important que le site, on ait des sites relais en fait. Inventaire Invention, ou je pense au libraire.com. Les gens qui décident qui accueillent nos livres, c'est une grande façade. Et on se pose la question, créer un site, c'est webmaster, c'est un métier. On n'a pas les compétences. C'est un entretien, c'est inintéressant d'avoir un site qui ne bouge pas de semaine en semaine, qui n'évolue pas, qui n'est pas mis à jour régulièrement, tu connais. Donc on n'a pas les moyens de se payer un webmaster. Et non, si c'est en projet, mais pour l'art culinaire, pour tout ce qui touche la cuisine, je pense que dans le collectif d'artistes, on va créer un site. Mmh. Mais il n'y aura que des histoires de nourriture et de... Les livres n'y seront pas, je pense pas.
D'accord. Ouais.
On ne veut pas se laisser manger, en fait.
Et quels sont les prochains titres à venir, en fait, aux éditions de l'Attente?
On a un très beau texte qui vont paraître. On a une dimension aussi avec, depuis peu, on a une, c'est pas une collection, mais j'accueille des textes, des essais, en fait, de réflexion. Le premier titre, c'est sur un auteur, sur le livre d'un auteur assez connu, je pense, à Paris, même en France, c'est Claude Royer-Journoux, qui a publié son premier livre en 1972 chez Gallimard, qui s'appelle Le Renversement. Et Michel Cohen-Halimi a écrit un essai qui s'appelle Seul le Renversement, qui nous l'a confié, et c'est une dimension et philosophique, et aussi elle parle de mise en scène dans la page par rapport à l'écriture. C'est assez intéressant, il faudrait que tu lises, Rémi. Et donc là on publie un essai de Laurent Albarracin qui traite d'un sujet assez délicat et même voire tabou, c'est sur l'image, la métaphore et la tautologie en poésie. Nous publions un premier livre, je crois, de Michel Guillemot. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Très beau texte. On a 5 livres à publier d'ici juin, on en a publié 5 depuis janvier. J'ai un trou de mémoire. Le livre de Sarah Riggs qui sort là dans quelques jours, qui s'appelle 60 textos. 60 textos. J'oublie quoi, Françoise? Je sais plus. Un livre de science-fiction de Nicolas Tardy. Extraordinaire. Un texte assez court, mais efficace, où il y a des pin-up nus qui sont chromés. Enfin, j'adore la science-fiction. J'en lis jamais, mais j'adore. C'est comme les chips. Françoise, elle adore les chips, mais elle n'en mange jamais. Et qu'est-ce qu'on va publier d'autre ?
Oui, mais je ne suis pas certain du titre encore, je ne vais pas le dire. Et un texte de Jean-Paul Chag.
Je ne connais pas. Mais avant de vous passer la parole, en fait, si vous avez des questions, j'aimerais que, en fait, Rémi donne peut-être la touche finale en lisant un extrait de Une disparition et tout, publié donc aux éditions de la Tente en 2006.
C'était prévu, hein. C'est pas une improvisation. Tout est prévu, tout ce qu'on dit. Donc différents petits personnages. Le premier d'ailleurs, c'est un homme, Stéphane. Plus là, plus ici, plus là, ni là, plus assis ici, plus debout là, plus marchant là-bas, plus dans l'air, plus dans l'eau, plus dans les lumières, plus dans les ombres, plus sous les arbres, plus sur ce banc. Plus à la pâtisserie, plus à la boucherie, plus allant, plus stationnant, plus montant ou descendant, votre Amieux. Plus cherchant, plus droit, plus penché. Non, plus ici, monsieur Amieux, plus là-bas, ni là. Plus ici, ni là-bas. Plus avec, plus sans, plus silence, plus blabla, votre Amieux. Plus adresse, ni porte, ni fenêtre. Plus automne, hiver, printemps, été, plus laine, plus coton. Plus ruisselant, grelottant, plus rouge ou pâle, soudain très pâle. Ni là-bas, ni là, ni là, ni là, ni là, plus ça. Ni ci, ni ceci, ni cela. Plus tôt, ni tard, avance ou retard, plus un, plus des, plus son, plus c'est, plus là, même pas ça de votre Amieux. Marie. Un jour, le monde est devenu intenable pour monsieur Amieux, et alors il n'a plus tenu, et alors il a glissé, et alors il a disparu. Le monde, c'est comme ça de nos jours. Si on n'a pas le ticket, arrêt et dissolution. C'est comme sur l'autoroute à la station de péage. On arrête la voiture, on tend le bras et les doigts ne sont qu'à quelques centimètres du ticket. Impossible de le saisir. Véhicule immobilisé, trajet suspendu, arrêt de la conversation dans la voiture. Quelques secondes encore, on tente de s'allonger le bras et les doigts afin de saisir le petit ticket qui nous ouvrira la route ainsi que la suite de notre histoire. Et si, au bout de ces quelques instants, on n'a ni la lucidité ni la force de manœuvrer, une petite marche arrière, une petite marche avant, en se rapprochant du distributeur, on sera bloqué à jamais. C'est ça qui est arrivé à monsieur Amieux. Je le sais, pour l'avoir observé, j'ai vu ses bras se rétrécir, son pas se raccourcir, se ralentir, jusqu'à l'immobilité. Je l'ai alors vu chercher des yeux autour de lui afin de trouver à quoi se tenir encore un peu dans la vie comme à une bouée. Puis j'ai vu ses yeux ralentir leur mouvement, briller de moins en moins, jusqu'à extinction. Bras de fer. Bah, une disparition, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Amieux, il m'appelait bras de fer. C'était mon surnom relatif à mes biceps et triceps. Il était le dernier à m'appeler bras de fer. Depuis qu'il est parti, je n'arrive plus à me lever. C'est comme si la mouche tsetse m'avait piqué. Pourtant, je lutte, je me lève, mais c'est plus fort que moi, je tombe à l'envers sur le lit et me rendors. Tant et si mal que je ne peux plus aller sur les bassins à flot et même plus aux toilettes, si vous voulez savoir. Émilie, née le 27 avril 58, ma mère est morte. Une disparition, c'est une disparition pour de bon, c'est pas une disparition à moitié ou même aux trois quarts. Et depuis que ma mère est morte et disparue pour de bon, elle est partout. Elle est dans mon linge, dans mes boîtes de conserve, même les plus petites comme les sardines à l'huile ou le concentré de tomates. Elle est dans l'armoire, dans les paysages de mer, terre et air. Dans le matin, dans l'après-midi, dans le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle est dans le téléphone, dans les fauteuils, ma mère, dans les fleurs, dans les poireaux, dans le silence, dans la télé à tue-tête, dans le beurre, dans les parfums, les lampes, les supermarchés, elle est partout, ma mère. Elle est dans les livres, les cigarettes, le vin, le vent, le lent, partout, elle est partout, ma mère. Partout depuis que disparue. Avant aussi, elle était partout, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que maintenant que disparue, elle est partout. Et la question est, comment que ça se fait, hein ? Comment qu'elle fait ? J'arrête pas de me demander ça depuis. Comment qu'elle fait, là, pour être partout, alors que 6 pieds sous terre, alors que moi-même, qui suis en chair et en os et en activité, en pleine possession de mes moyens, j'y arrive pas à être partout. C'est pas 4 bras qu'il me faudrait, mais au moins 3 fois 4 bras qu'il me faudrait. Alors dites-moi, comment elle fait, hein ? Comment elle fait pour être partout, hein ? Comment qu'elle fait, ma mère disparue pour de bon ? Annie Lebrun, née à Bordeaux le 26 juillet 57. Ma relation à Amieux, c'est simple à résumer. Je l'ai toujours aimé et il ne m'a jamais regardé. Alors qui mieux que moi le connaît ? Je l'ai tant et tant regardé que je connais tout de lui, tout ce que personne ne sait. Je ne parle pas là de la restauration du bateau, le Taino, du travail à la raffinerie, qu'il n'avait pas le permis de conduire, chaque chose que tout un chacun qu'il a un peu connu sait. Je parle de tout ce que j'ai appris de lui en l'observant et qui est l'essentiel, l'essence même d'un homme. Je parle que pour les éclairs, il préférait d'abord lait au café, ensuite ceux au chocolat et en dernier ceux à la vanille. Je parle que en ce qui concerne les chemises, il préférait de loin les pulls, histoire d'avoir le cœur toujours bien au chaud. Je parle que dans ses yeux, il y avait toujours de la pluie, même au milieu de la canicule de 68. Je parle aussi que face à quelqu'un qui disait des choses du syndicat, il se retrouvait vite fait comme un pantin qui n'a pas de manipulateur et qu'avec les femmes, toutes les femmes, aïe aïe aïe, avec les femmes, c'était pareil, pire. Avec les femmes, c'était qu'il s'en allait vite fait, mal fait, comme si d'un coup, le fond de l'air était frais et en plus qu'il y avait une casserole de lait sur le feu chez lui. Chez lui, non. Je n'y suis jamais allé, bien sûr. Je l'ai imaginé, son intérieur, un mélange de parfums d'éclairs au café et d'une grosse couette sous laquelle mettre son cœur, toujours dans les frissons dès que son pull enlevé. Et ce que j'ai à dire aussi, et ce dont je suis certaine, c'est qu'un tel homme, avec un tel mélange en lui de pluie et de froid, c'est qu'il était amoureux transi, zi d'une qui n'était jamais là, ou d'une qui ne serait plus jamais là, ou d'une qui n'avait fait que croiser, en n'ayant même pas le temps de croiser les doigts, afin que la chance et les dieux de l'amour soient avec lui. Deux petits derniers textes. Alain Dumayet, né le 14 juin 49, la disparition. Alors là, mon vieux, moi, ça ne me touche pas, ni de loin, ni de près. Dans ma vie de tous les jours, elle a disparu, de la vie de tous les jours, la disparition. Comment ça qu'elle a disparu, la disparition ? Ben, parce que je suis vacciné. Comment qu'on se vaccine contre la disparition ? Alors là, c'est simple. Il n'y a qu'un seul remède, c'est l'entraînement. D'abord, quand tu es petit sur le manège, quand il tourne, eh bien, un coup, le papa et la maman sont là, et ensuite, ils ne sont plus là. Après, quand tu es toujours petit avec les magiciens qui te font disparaître le lapin que tu aimais bien et la colombe que tu aimais bien aussi. Ensuite, tu continues l'entraînement. Quand tu commences à faire la vaisselle, l'essuyer, la ranger, eh bien, tu te rends compte qu'il y a régulièrement des petites cuillères qui disparaissent. Ensuite, quand tu commences à connaître des filles, eh bien, tu te rends compte que là aussi, il y en a régulièrement qui disparaissent. Ensuite, c'est la même chose avec les présentateurs du JT, et même plus rapide avec les présentateurs de la météo. Alors, petit à petit, tu deviens immunisé. Au début, tu n'étais pas immunisé. Tu pleurais quand il y avait le papa ou la maman ou Gustave, l'ours en peluche qui disparaissait. Et puis, petit à petit, eh ben, tu es de mieux en mieux immunisé jusqu'à être totalement immunisé. Et moi, je suis tout ce qu'il y a d'immunisé. Donc. Tout ça pour dire que on parlait de quoi ? Celui-là, j'aime bien le faire debout, mais je le ferai assis. Je vais pas prendre de... Il est lourd, ce micro.
Béatrice Marolo, née en 51, le 9 septembre. Moi, votre monsieur Amieux disparu, je m'en fiche un peu et même m'en fiche carrément parce que moi, c'est ma bonne qui a disparu. Pchit, envolée en me laissant son plise. Abandon sans emporter ses chiffons et torchons. Vous vous rendez compte un peu, ma bonne. Ma bonne que j'avais à la bonne et qui m'avait à la bonne, forcément, puisque c'était ma bonne. Et même une bonne, une vraie de vraie, une espagnole en robe noire et souliers vernis et cheveux tirés en chignon. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec son plise, ses chiffons et torchons? C'est ça le pire. Ce sont les choses qu'elle laisse derrière elle. Tous ses instruments de travail, le balai, la serpillière, le ramasse-miette, le ramasse-bourrier, le plumeau, le liquide à vitre, l'aspirateur, l'éponge pour l'évier, l'éponge pour le lavabo et celle pour la cuvette des toilettes et j'en passe. Tout ça qui reste. Et ici, et qui me rend la vie insupportable. Tout ça qui me parle d'elle, me ramène à elle, toutes ces madeleines de Proust espagnoles qui marquent son absence et guisent mon manque d'elle. Et aïe, 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 j'ai mal. Et aïe, aïe, aïe. Et bien sûr qu'elle est irremplaçable, ma Carmen. Bien sûr qu'elle était unique puisque fantastique, et bien sûr que je ne la retrouverai pas, qu'elle ne reviendra pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et aïe, 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 j'ai mal. Et je m'en fiche comme de mon premier mari et de mon deuxième mari, que la poussière s'accumule, que gris soient les meubles et les tapis. Et je m'en moque comme de mon troisième mari, que la moquette soit crasseuse. C'est pas ça, aïe, 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 j'ai mal, c'est pas ça qui me manque. Ce qui me manque, c'est qu'elle met à la bonne, ma bonne, qui a été la seule personne à m'avoir la bonne durant cette chiennerie d'existence, que fut ma chiennerie d'existence. Alors, votre monsieur à mieux, vous pensez bien que je m'en fiche comme de mon quatrième mari. Merci.
Merci Rémi. Donc, je vois rien. Est-ce qu'il y a quelques questions à Rémi Cecchetto ou à Franck Prujat ici?
Je suis né en 1967. Hein.
Questions auxquelles ils répondront avec plaisir. Eh bien... Eh bien, dans ce cas-là, on téléphone à la BPI. Qu'est-ce qu'on fait, la BPI? Ils ont disparu. Monsieur a une question.
Non, mais c'est pour... Enfin, bon, bref. C'est une question pour vous, Rémi. Est-ce qu'il y a un côté journalistique dans la façon dont vous brossez vos portraits, techniquement? C'est peut-être une question con, mais c'est pour commencer.
C'est-à-dire journalistique, c'est-à-dire...
Vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux, vous les faites parler, après vous intériorisez tout le truc et vous recrachez le truc.
Non, il n'y a pas de souci, en tout cas, il n'y a pas de souci d'être objectif, quoi. Hein. Je suis écrivain, je ne suis pas journaliste. C'est complètement subjectif. Et puis, de toute façon... À part quand je fais des portraits en direct, quand les gens viennent s'asseoir à ma table et puis qu'on discute et puis que je leur file mon appareil numérique, vous vous souvenez de tout ça là? Eh bien là, il y a effectivement un vrai souci de réel. Ça fait vraiment peur, c'est vraiment très compliqué, mais ça reste un souci avant tout littéraire. Hein, c'est mêlé ça à cet endroit-là. Il y a vraiment, je travaille vraiment le texte, même si le temps est court. Je travaille énormément le texte, mais il s'agit de restituer des choses, de ne pas en inventer. Même si ça, il peut y avoir quelque chose de l'amplification, par exemple, chez quelqu'un, d'échafauder des choses, d'en dire un peu plus. Enfin, mais jamais d'inventer, quoi. Jamais. Hein. Juste pour ça. Hein. Pour le reste, non.
Franck, est-ce que tu as une question?
Il faut que je me pose une question? Je n'ai pas compris la question.
C'est ça.
C'est ça.
Tu as une question à te poser. Te poses-tu des questions?
Pour rejoindre monsieur, je ne crois pas que c'est le côté journalistique. En revanche, il y a toujours une dimension critique, on va dire. Critique peut-être
social ou autre dans tes textes, Rémi. Tu arrives toujours à insérer comme ça des petites piques pour faire réagir, rebondir quelque chose, quoi. Enfin, j'ai pas tu en parlais pour petit-déj la dernière fois.
Mais j'essaye d'être présent, quoi. J'essaye d'être présent sur des choses qui me tiennent à cœur, tout simplement, quoi. Donc j'ai plein de travaux dans une année en cours. J'ai plein de travaux, des fabrications de livres, des fabrications de textes pour la scène, et puis d'autres choses. Et puis tous les ans, j'essaye d'être, voilà, de me libérer du temps, tant bien que mal, pour être sur le terrain, quoi. Vraiment sur le terrain. Donc l'année dernière, c'est venu comme ça à moi, puisque c'était l'histoire des sans-papiers. Et puis cette année, je suis allé au Liban. J'ai écrit un texte qui s'appelle Rescousse, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et puis quand ça a à nouveau chauffé là, au mois de juillet, ça me concernait de plus en plus. Ça, donc j'y suis allé, quoi. Donc il y a un souci comme ça d'être effectivement dans le réel, quoi, de marcher dessus, quoi, de marcher. Et puis c'est dans les pieds, et puis après j'écris.
Moi, j'avais écrit un petit texte dans le train en situation pour toi, Rémi. Je peux le lire ?
Ça va clore le truc, hein. Il n'y aura plus de questions.
Je peux ?
Vas-y, vas-y.
Bah, j'ai essayé d'écrire et mon texte a un titre assez clair. Ça s'appelle...
Je t'éditerai.
Le titre est clair, il s'appelle Rémi Checheto. Rémi Checheto. Alors j'ai fait un peu un copier-coller de mémoire, c'est dans le train, ça va vite, j'ai vu passer une biche, j'ai vu passer un petit lapin, et puis j'ai pensé à toi.
Au moment du lapin.
Oui, bien sûr. Rémi Checheto est un écrivain prolixe, puisqu'il écrit pour des metteurs en scène, des comédiens, des marionnettistes et des lecteurs. Rémi est un homme de terrain. Il sait s'adapter aux multiples situations. Et là, je rajoute, j'y pense, mais il ne possède pas de 4x4. Il aime à dire qu'il est curieux des autres, pour établir un langage avec l'autre et pour le lecteur. Disons que la passerelle serait le livre. Le livre devient un objet passeur, un véhicule de la langue, et pas 4x4 non plus. Le travail de Rémi Checheto porte un regard, un éric. Éclairage sur la vie, sur notre quotidien. Il donne en quelque sorte une vision du monde avec un filtre assez considérable sur le questionnement social. C'est aussi par ses observations affûtées du comportement humain, soucieux du moindre détail, que Rémi Checheto affirme ou confirme son engagement d'écrivain. C'est bien ? Tu l'as dit ?
Mais je suis pas si social que ça, quoi. Je suis pas qu'un animal social. Le prochain livre que vous allez éditer de moi, c'est absolument pas ça.
Ah non,
c'est des livres sur le ciel, quoi. Donc voilà.
Le ciel.
Le ciel. Ça s'appelle ciel. Ou nous le ciel. Ou on le ciel. Je sais pas encore.
Ouais, mais en même temps, quand tu as écrit Petit Déj, c'est pas pour faire joli, quoi. Il y a le sujet est très très attrayant comme ça, j'en reviens par rapport à la critique. Tu disais toi-même que tu as inséré à l'intérieur du texte pour que ce soit un peu revendicatif, quoi. C'est le petit déj, c'est peut-être juste une petite façade comme ça.
Il y a une petite phrase dedans qui, fout de nous. Il y a une petite phrase comme ça qui court dans le livre. C'est vrai qu'il y a des matins, on nous fait lever tôt, quoi. On se fout de nous. Et puis, mais confiote, c'est plus mêlé parce que. La confiture, c'est pas simplement des fraises, du sucre, de l'eau, une casserole en cuivre. C'est aussi la confiture qu'on fait ensemble, de nous-mêmes, par exemple, avec les choses qu'on a à l'intérieur, et puis des choses qui, tout d'un coup, qui sont en tête à tête avec notre tête, et qui vont prendre ou qui vont pas prendre, qui vont rester ou qui vont pas rester, qu'on va trouver agréable ou pas agréable. Et puis la confiture, c'est aussi le fait d'être ensemble. Et puis que ça prenne ou pas, par exemple. C'est tous les mélanges, en fait, qui m'intéressaient, là. Donc, effectivement, mais ça picore dans tout mon travail, quoi. Hein, dans mon regard sur le quotidien, dans le fait que je sois père de famille, dans le fait que oui, j'aime me déplacer, et puis je suis animé par la question politique, en tout cas. Donc, mais voilà, toc. Vous avez une question ?
Monsieur a une question.
Oui, j'avais envie de savoir, autant Rémi que Franck, c'est ça, quel intérêt vous avez l'un et l'autre à travailler sur la proximité avec les gens pour Rémi, la proximité avec les auteurs pour Franck. Enfin, quel ressort vous trouvez dans ce rapport-là au monde?
Moi, c'est ma manière de faire. Enfin, j'ai rien à dire dessus. Enfin, voilà, c'est ma manière de faire. C'est mon appétit des gens, quoi. Mon rapport au réel, il passe forcément par les gens, quoi. Je ne suis pas un contemplatif. Je ne regarde pas les ponts. Je ne regarde pas les arbres. Je déteste la nature, tout ça. Je n'aime en gros que les gens, et encore, pas tous, quoi. Comme disait l'autre, j'aime l'humanité, mais pas les gens, quoi. Mais voilà, ça passe par ça, quoi. Donc, c'est mon appétit de l'autre. Mais cet appétit, il est fondamental, parce que j'ai un appétit de moi-même aussi. J'ai un appétit de vie, quoi. Donc, évidemment, ayant faim de vivre, ayant faim de moi, ayant faim d'expérience, j'ai faim forcément des autres, qui ne sont pas que des miroirs, qui sont des autres aussi, qui apportent autre chose. Même si passer à la moulinette, encore une fois, ça finit par me ressembler, quoi, les choses, les gens.
Moi, je dirais que ça fait une, ouais, ça, y a une ouverture, il y a un dialogue. Donc moi aussi, hein, je suis très en demande de ça. Enfin, pas toute la journée, mais ou quand je dors. Mais c'est encore une fois, il y a un lien qui se fait quand on est proche des gens. Je sais pas, moi, il y a des gens qui travaillent dans leur bulle, qui sont complètement isolés. Quand on est auteur ou quand on est éditeur, c'est quand même, il y a un rapport au public. C'est public, c'est un acte public, politique aussi. Et donc inévitablement, quoi, on se frotte à la vie, aux réactions, et ça fait un échange, quoi. Il y a un dialogue qui s'installe. On n'est pas spécialement d'accord. Bon, ça, sans en venir aux mains, quoi, mais oui, on est assez réactif, quoi, avec Rémi, je trouve.
Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, Patrick, il a une collection sur le Japon, un inventaire, et cet hiver, j'ai rencontré des Japonais comme ça. Et en fait, je pourrais écrire un livre sur le Japon simplement en ayant parlé avec les gens. C'est ça qui m'intéresserait. Les Japonais qui parlent de leur pays. Et voilà, enfin, moi, c'est une démarche qui me va tout à fait, c'est de ne pas me déplacer, de voir des gens ici et puis d'écrire sur leur pays. Ça me va, ça me suffit. Ce qu'ils en disent, et ils en disent beaucoup d'ailleurs. Plein de choses qu'ils ne disent pas dans ces bouquins encore à Inventaire.
Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? On ne vous voit pas, en fait. C'est tellement fort là-haut que... bien. Donc, c'était la troisième rencontre. La quatrième aura lieu le 4 juin prochain. Et elle sera, cette fois, tout entière consacrée à Inventaire Invention. Et donc, je serai là en présence d'un auteur qui s'appelle Sonia Chiambretto, dont on a publié un livre assez extraordinaire sur la Tchétchénie qui s'appelle Chto. Voilà. Donc le 4 juin à 19h, ce sera la dernière de ce cycle. Et donc je remercie Rémi, je remercie Franck, et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci.